birambira samirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour chers auditeurs de la radio Inzamba Gate Kakawe, bienvenue à cette rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Nous allons insister sur les dossiers en rapport avec l'économie. L'attitude et certains discours des autorités burundaises semblent en total déphasage de la réalité. C'est le cas de la récente annonce du ministre des Affaires étrangères de revendre un don japonais de carburant. Or, au même moment, des signes de pénurie de ce produit commençaient à se manifester et aujourd'hui, il manque presque partout dans le pays avec de nombreuses fâcheuses conséquences sur le marché. Parlons-en avec Josine Kadze.
Les circonscriptions où le carburant est devenu pratiquement introuvable ne se comptent plus. En deux éditions seulement, la radio Inzamba a rapporté une situation désastreuse dans les provinces de Cyangugu, Rumonge et Bujumbura-Mairie, mais les autres provinces ne sont pas loin de ce même état de fait. Mais le manque de carburant s'accompagne, comme d'habitude, de conséquences qui mettent la population dans le désarroi, avec notamment une hausse des prix des denrées alimentaires qui, parfois, passent du simple au double. Albert Shingiro avait-il mesuré la portée de ses propos? Quoi qu'il en soit, le ministre des Affaires étrangères affichait une assurance déconcertante quand il a affirmé, voilà un peu plus d'un mois, que le don en carburant du Japon d'une valeur de 3,4 millions de dollars allait être revendu pour financer certains projets de l'État. Un discours qui n'avait d'ailleurs pas tardé de susciter de vives réactions, certaines lui reprochant de sembler ne pas savoir tirer les leçons du passé et même d'un passé récent. Puisque la situation actuelle est en tout point pareille à celle d'il y a à peine 3 mois. Le gouvernement, appuyé par la société Interpol, qui dispose du monopole du carburant dans le pays, avait alors annoncé qu'une solution durable allait être trouvée. Mais les faits, aujourd'hui, prouvent le contraire de tous ces discours.
Merci, Josine Kadze. Les autorités burundaises devraient se ressaisir et se mettre ensemble pour trouver une solution à la pénurie du carburant. C'est un appel de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Il le dit au moment où le carburant, l'un des produits nécessiteux de la vie quotidienne, reste rare dans le pays et les autorités sont dans le silence absolu. Pour lui, il est clair que le pouvoir du CNDD-FDD veut utiliser tous les moyens pour sacrifier son peuple et rappelle qu'un tel pouvoir ne dure jamais. Écoutez-le.
Il était écrit quelque part à travers le WhatsApp, je cite, « Est-ce que ce n'est pas une honte? Il n'y a pas d'électricité, pas de l'eau, pas de bière, pas de carburant, pas de sucre, pas de bajaj, pas de moto, pas de vélo, pas de charbon pour cuisiner, pas même de passe pour que nous puissions fuir le pays. » Et ça résume le sentiment du simple citoyen qui vit à Bujumbura et qui ne sait pas à quel sens se vouer. Mais la question est celle-ci. Pourquoi on en est arrivé là-bas? Je rappelle que lorsque le CNDD-FDD venait au pouvoir, il avait promis, monts et merveilles, que les choses allaient changer. Mais voilà, ce que nous avons obtenu, c'est juste le contraire, c'est juste la différence entre le jour et la nuit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais peut-être on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont un programme clair? Pourquoi ils ne veulent pas le réaliser? Et pourquoi ce qu'ils disent, c'est mielleux, mais que les faits sont le contraire de ce qu'ils disent? Que cela peut signifier? Effectivement, lorsque nous analysons aussi les choses, on constate qu'il y a un groupe d'hommes, de femmes, au sommet du pouvoir, qui s'approprient des biens de l'État, qu'ils utilisent comme bon leur semble, mais en réalité, le peuple burundais, chaque jour qui passe, s'appauvrit davantage. L'archevêque de Gitega, un jour, l'a dit, on ne sait pas ce que vous voulez. Nous constatons des choses et nous nous posons des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je reviens sur la question. Qu'est-ce que le pouvoir CNDD-FDD veut vraiment des Burundais? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Alors maintenant, je considère que ce pouvoir est à la limite. On se pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, il y a des faits qui sont là. Les Burundais ne seront pas capables demain d'affronter la vie. Et moi, je conseille au peuple burundais de comprendre que peut-être ils ont assez attendu, mais qu'ils doivent se poser des questions. Chaque jour qui passe, quand ils sont sur ces lignes d'attente de l'essence ou de ceci ou de cela, qu'ils se posent des questions. comment en sommes-nous arrivés ici? Qu'est-ce qui se passe dans le chef du CNDD-FDD? Et aussi se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois que le pouvoir devrait quand même comprendre que les choses doivent changer. On ne peut pas prendre le citoyen comme un esclave qu'on peut continuer à presser jusqu'à l'infini. À un moment donné, il vous dira non.
Parlons à présent de la coopérative Ndouza. Trois personnes ont été arrêtées par la police en date du 30 mars. Parmi eux figurent deux pasteurs et une dame, tous de l'église First Miracle Center, FMC. Ils sont accusés de voler via une pyramide d'argent. Pierre Mouriquier, porte-parole de la police, dans une conférence de presse tenue le mardi, a affirmé qu'une somme d'1 milliard a été saisie dans les comptes de ces personnes. Il demande à la population de rester vigilant pour éviter les escroqueries.
Ils sont respectivement représentants légaux, vice-représentants légaux et trésorière d'une coopérative appelée coopérative d'Ufashe Abakiriho et devraient intervenir dans le domaine de l'agri-élevage. La coopérative est agréée depuis le mois de mai de l'année passée. Elle a son siège à mairie de Bujumbura, à Kanyosha. Au lieu de continuer à mettre en œuvre cet objet social, la coopérative a plutôt viré vers l'escroquerie à pyramide. Et elle a mis en place une coopérative, une forme de microfinance, et groupement de financement social Ndouza, qui n'a jamais été agréé par la Banque de la République du Burundi. Et la coopérative a commencé à collecter de l'argent au sein de la population à travers les enseignements qui ont été dispensés via ces deux églises. Et dans les églises, on demandait à la population de payer l'argent pour pouvoir récupérer le triple en seulement à un mois. Le groupement illégal, financier illégal avait déjà collecté 1 milliard de francs burundais. C'est la somme qui se trouve maintenant sur les comptes de ce groupement illégal. Et n'eût été l'intervention, l'enquête de la police, eh bien, les pasteurs allaient disparaître avec ce montant, comme c'est déjà constaté. Suite à cette situation, nous voudrions en appeler à la population de redoubler de vigilance face à ces cas d'escroquerie à pyramide.
Les membres de cette coopérative Ndouza ont fait un sit-in devant le parquet de Mukaza pour exiger au procureur la libération des responsables de cette coopérative arrêtée par la police le mardi. Ils indiquent que leurs dirigeants sont injustement incarcérés. On écoute un des membres de la coopérative Ndouza.
On dit que
nous avons dit au procureur qu'il n'y a personne qui a réclamé de l'argent et par conséquent que personne n'a porté plainte, mais tout simplement que notre directeur général soit libéré pour la continuité de nos projets. Notre directeur général est comme une solution pour nos problèmes. On le considère comme Kadhafi. Quand il était au pouvoir, même le petit peuple en tirait profit. Notre directeur général nous a beaucoup aidés. On n'avait plus de problèmes de rations et de loyers. On s'acquittait de nos dettes sans problème et payer le Minerval n'était pas un souci. On demande qu'il soit libéré pour qu'on puisse continuer nos activités. Concernant les autres banques et microfinances, nous avons des comptes et quand on perçoit notre argent, on se dirige vers ces banques pour verser l'argent sur nos comptes. On ne conserve plus notre argent à la maison comme dans le passé. La thésaurisation n'est plus notre mode de vie. Quand on est payé, l'argent est vite versé sur nos comptes. Nous demandons au procureur de le laisser libre car ce n'est que de la jalousie.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Les dirigeants du pays devraient toujours prendre des mesures en faveur du bien-être de la vie basées sur l'amour et la discipline en s'inspirant de l'héritage de feu président Nagyamira. Cela a été dit par Mgr Anatole Lugerinyange dans une messe de commémoration du 28e anniversaire de la mort du président Cyprien Nagyamira dans un accident d'avion au Rwanda en compagnie du président rwandais Juvenal Habyarimana. Les détails avec Beni Exarakana. Le
cette messe en mémoire du 28e anniversaire de la mort du président Nagy Amida, qui a vu la participation des hautes autorités du pays, y compris le couple présidentiel, a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Dans son homélie, Monseigneur Anatole Rugelinyange s'est basé sur le livre de Daniel, où des jeunes ont accepté un grand amour pour Dieu jusqu'à accepter le martyr. Le président Nagy Amida est arrivé au pouvoir au moment où le pays traversait une crise politique profonde. Les protagonistes ont tout de même accepté de s'asseoir ensemble et l'ont désigné pour diriger le pays car ils avaient confiance en lui. Feu président Nagy Amida, qui avait comme champ de bataille, a essayé de bien diriger compte tenu de la situation qui prévalait dans le pays.
Feu président Nagy Amida Cyprien a essayé et nous a laissé un bon témoignage d'amour. En témoigne son élection à la présidence par toutes les autorités antagonistes, les gens au pouvoir et les opposants, sans oublier les corps de défense et de sécurité. Quand vous gardez la parole de Dieu sans relâche, vous gagnez énormément tant et tant de choses dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Pour réaliser la discipline dont feu président Cyprien Nagy Amida nous a recommandé, il faut nous soumettre à la parole de Dieu, mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est à ce prix que nous aurons l'amour les uns envers les autres. C'est à ce prix que nous allons vivre réconciliés et pouvoir édifier le pays. C'est à ce prix que nous serons en train d'honorer la mémoire de feu président Cyprien Nagy Amida.
Vous saurez que le président Cyprien Nagy Amida a été succédé par Sylvestre Ntibantunganya, qui était ministre des Relations extérieures dans son gouvernement. Ils étaient tous du parti Sawanya Shodebo.
S'exprimant sur la justice pour les victimes, Maître Janvier Migilimana indique que la Cour d'appel à Paris a passé plusieurs années à explorer de fausses pistes visant le FPR avant de rendre son verdict sur le non-lieu de ce dossier. Désormais, le moment est venu, selon cet avocat burundais, pour que la justice française enquête cette fois-ci sur le rôle des extrémistes hutus proches du pouvoir de Habyarimana, ainsi que la complicité de certains Français dans cet attentat qui a coûté la vie au président burundais. Suivez Maître Janvier Bigilimana.
À l'issue de ce procès, on constate que la justice française a constaté, avec raison à notre avis, que le FPR n'a pas été impliqué dans l'attentat contre l'avion présidentiel en 1994. Pour le moment que la piste du FPR est éloignée, nous pensons que, au nom des victimes, au nom de tous ceux qui ont besoin de justice dans ce dossier, il faudrait que la justice française fasse un autre pas et oriente ses investigations sur les autres pistes, notamment celles qui impliqueraient ceux qui étaient extrémistes et qui étaient dans le camp de Habyarimana et qui ne voulaient pas l'application immédiate et intégrale des accords d'Arusha, lesquels accords avaient permis à ce que le FPR soit intégré dans les institutions rwandaises. Nous pensons que l'autre piste, celle de poursuivre soit le gouvernement français, soit des Français qui ont été impliqués dans la commission de cet attentat, mais nous pensons que cela pourra aussi prendre un long temps, encore que il y a des implications de la politique française pour pouvoir engager d'autres poursuites, mais la seule voie pour les victimes d'obtenir la justice, je pense que ce serait que la justice française abandonne cette piste qui n'a pas donné de résultats, mais plutôt entame d'autres pistes, celle de trouver les vrais coupables qui devraient être condamnés, éventuellement indemniser les victimes pour ce forfait qui a emporté beaucoup de vies humaines, y compris celle de deux présidents, celui du Burundi et celui du Rwanda.
C'est sur cette analyse juridique de Maître Janvier Bigilimana que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Vous étiez avec Joséphine Johnson-Zemana. Passez un bon dimanche, des Ramons. À la prochaine.